cinquième dimension. Une pièce radiophonique présentée par le Théâtre de l'Oreille, d'après un roman de Marcel G. Prêtre, adapté pour la radio par Pierre Bassoli. Aujourd'hui, deuxième partie, un étrange portefeuille. Avec Gilbert Rigotti, Marco Poli, Philippe Lecher, Eric Ashton-Lomax, Carlo Ruexeguer, Claude Prélot, Yvan Muller et Gaston Lozère. Mise en onde, prise de son et montage, Pierre Bassoli.
Alors, mon cher Armand, vous nous disiez tout à l'heure que l'ambiance de cette soirée était propice à raconter des histoires du genre de celle que vient de nous narrer notre ami Frédéric.
C'est vrai, je crois que j'ai aussi assisté à un événement qui pourrait entrer dans ce cadre.
Racontez-nous, monsieur de Camard. Nous sommes impatients.
Je dirais même que nous sommes suspendus à vos lèvres.
Eh bien voilà. Dans la vie, en dehors de mes affaires et de ma famille, j'ai deux passions. La pêche sous-marine et le ski. Cette année-là, j'avais réussi à quitter Paris, voulant goûter pleinement les joies de la neige de printemps. Françoise, ma fille, m'avait précédé à Courchevel. Je me réjouissais à l'idée de retrouver mon chalet, les pistes, le grand air et le soleil. Le lendemain de mon arrivée, j'ai tenu à être parmi les premiers à fouler la neige tombée durant la nuit. Au départ de la piste, je voyais devant moi la descente, les taches encore grises des forêts et vers Méribel, les lambeaux de brume qui s'effilochaient sous les premiers rayons du soleil. J'étais seul, merveilleusement seul. Françoise ne devait me rejoindre que plus tard. Les pépillements de quelques oiseaux matinaux et de temps en temps le son mat d'un paquet de neige tombant d'un arbre étaient les seuls bruits. Au sortir d'une sapinière, j'ai aperçu une silhouette qui descendait devant moi. La technique de ce skieur matinal m'a plu et sans savoir pourquoi, j'ai eu envie de partir sur ses traces. Je pense, avec le recul, que j'ai sans doute voulu voir si je pouvais combler mon retard et arriver en même temps que lui en bas, voire le dépasser. Bref, j'avais l'impression de mener une course à handicap. Je suis parti en chausse, j'ai pris quelques risques dans les grands virages. La vitesse m'émoustillait. Je me suis vite rendu compte que le skieur que j'avais pris en chasse se piquait au jeu. Je coupais au plus court, il faisait de même. De temps à autre, il jetait un regard furtif derrière lui. Finalement, au terme d'une descente de près de 3000 mètres, nous sommes arrivés ensemble aux télécabines du Prat. Je revois la scène, comme si j'y étais. Nous étions trop essoufflés pour pouvoir parler. Nous avons ôté nos lunettes et...
Pierre Masson, avocat à la cour.
Armand de Camard, éditeur. J'ai connu un Masson, mais il y a de cela une vingtaine d'années.
J'ai connu un de Camard à la même époque. C'était sous l'occupation.
Dans la résistance. Une usine électrique.
Un gros transformateur.
Une petite pince.
Un énorme court-circuit.
Et une gigantesque déflagration.
C'est donc toi, félicitations.
Pour l'usine?
Bien sûr, mais surtout pour ta descente d'aujourd'hui.
Tu n'as rien à m'envier.
Alors, c'est incroyable.
20 ans. Et il faut qu'on se retrouve sur une piste de ski. Où plaides-tu en général?
Chambéry. Tout le monde ne peut pas être un Parisien. La province a parfois des compensations. Je m'offre la neige toutes les semaines durant la saison.
Alors tu as quand même fait ton droit.
Eh oui. Je sais que tu n'y croyais pas à l'époque, mais ça y est. Tiens, qu'est-ce que tu fais demain après-midi?
Du ski? Pourquoi?
Je plaide à 15h, en cas assez particulier. Veux-tu venir m'entendre?
Eh bien, pourquoi pas, après tout. D'accord. C'est ainsi que le lendemain, je me suis retrouvé avec ma fille Françoise dans l'enceinte du tribunal correctionnel.
Accusé, levez-vous.
Dans la salle comble, un murmure s'éleva. Il y eut quelques rires lorsque l'accusé, obtempérant à l'injonction du président, se dressa dans son box. Il commença par jeter un regard en coin au gendarme avant d'épousseter son veston, de toiser la salle, de lui sourire et de consentir à se tourner enfin vers le magistrat. Manifestement, l'accusé avait des amis dans l'assistance. Il était de petite taille, avec le teint hâlé et cependant couperosé, les pommettes saillantes. Il était difficile de lui donner un âge. Deux yeux étrangement bleus éclairaient sa face ridée comme une vieille pomme. Courtaud, large d'épaule, ses grands bras noueux semblaient vouloir rejoindre ses chevilles tant ils étaient disproportionnés. Il avait la bouche gourmande, le nez luisant et rouge vif. Une barbe en collier, tirant sur le roux, lui mangeait les joues. Il était laid, mais la douceur de son regard, la petite flamme courant dans ses prunelles, atténuait cette laideur. Il avait la candeur des simples et l'indulgente compréhension des êtres qui dialoguent avec les étoiles, couchées dans les chaumes à la belle saison. Le complet qu'il arborait était trop neuf, pas assez fatigué pour qu'il y ait ses habitudes. Il donnait l'impression d'être déguisé pour la circonstance. Sans doute était-ce sur le conseil de son avocat qu'il l'avait revêtu.
« Vous vous appelez Plantevin, Nestor, vous avez 55 ans. » Vous n'exercez aucune profession et...
Hé, hey, faites excuse, mon président, hein, je suis pensionné.
Vous parlerez lorsqu'on vous interrogera. Et vous êtes connu dans le pays sous le sobriquet de la bouteille, exact?
Oui, mon président.
Vous buvez immodérément. Dans votre ivresse, vous conspuez l'autorité. Pour boire, vous vivez d'expédients.
Ah, hé, je resservisse.
Encore une fois, taisez-vous.
Oh, si ça peut vous faire plaisir, je peux même partir tout de suite, hein.
J'avertis le public qu'en cas d'incident, je ferai évacuer la salle. Maître Masson, s'il vous plaît, demandez à votre client de ne pas intervenir sans qu'on le lui demande.
Très bien, monsieur le président. Monsieur Plantevin, contenez-vous. On vous donnera l'occasion de vous exprimer.
Vous n'avez pas toujours été un vagabond, Plantevin. Durant la guerre de 39-45, vous avez été noté comme un combattant courageux. Sans votre penchant pour l'alcool, vous auriez pu conserver votre galon de maréchal des logis. Mais ça... Bref, vous avez été cassé pour ivresse en service. Mais j'ai plaisir à reconnaître que votre conduite au feu vous a valu la médaille militaire et 3 citations, exact?
Oui, mon président. Et je tiens à dire que la jaune, enfin, la médaille militaire, ben, je ne l'ai pas eue en gendarme pour 15 ans de service, hein, mais à la rifmette.
C'est stipulé dans vos pièces. On ne vous a pas rengagé à la fin de la guerre.
Ah, c'est moi qui ai pas voulu.
Laissez-moi parler. Maître Masson, pourriez-vous calmer votre client? Bon, à partir de cette date, vous êtes tour à tour colporteur, ouvrier agricole, cantonnier, porteur en gare. Vous faites les vendanges.
Bah, faut bien, hein. Plantevin, je me nomme et la bouteille qu'on m'appelle. Faut pas aller contre son destin.
Maître, encore une fois, voulez-vous demander à votre client de se taire? Sans quoi nous n'en finirons jamais.
Oui, monsieur le président. Le président a raison, monsieur Plantevin. Ne prenez pas la parole s'il ne vous la donne pas. Ça risque de pencher dans la balance en votre défaveur.
D'accord, maître. Je dirai plus rien, mon président. Parole de la bouteille. Allez-y, vous pouvez causer. Eh ben quoi, c'est pas de ma faute, hein, si je marre.
Nous arrivons au fait qui motive votre comparution. Le 12 avril 1961, interpellé par le brigadier de police en chaune, qui vous reprochait de conduire une voiture en état d'ivresse, vous lui avez répliqué, je cite, « Quand on a une gueule comme la tienne, mon petit père, on porte pas un képi sur la tête, mais un caleçon. »
Ah oh ben si vous connaissiez le gars, mon président, ben vous verriez bien que...
Monsieur Plantevin !
Silence dans la salle. Plantevin, vous allez finir par m'obliger à vous expulser. Cela dit, veuillez expliquer au tribunal dans quelles circonstances vous avez été amené, d'une part, à avoir cette altercation avec un agent de la force publique, et d'autre part, quelle est l'origine des fonds qui vous ont permis de vous rendre acquéreur d'une automobile.
Eh ben, c'est à cause du portefeuille, mon président. Je l'ai trouvé en forêt quand je suis allé aux champignons. Il contenait 100 francs. Il n'y avait rien d'autre. Pas de papier. Ben, je pouvais pas les rendre.
Vous auriez pu le déposer à la gendarmerie.
Bon, ça aurait été une perte de temps, puisque de toute manière, on me l'aurait rendu au bout d'un an et un jour.
Passons.
Avec ces 100 francs, eh ben, j'ai invité les copains chez la poire. Et je l'ai payé, hein. Demandez-y, il est dans la salle. Pas vrai, Auguste? Même que je peux vous dire qu'on s'est tapé des andouillettes au chablis du coq au Riesling. Bah, moi, je le préfère au vin rouge, hein. Mais Auguste, il ne le supporte pas. Pourtant, le rouge, c'est tout ce qu'il y a de sain, hein.
Je vous l'ai dit, si ça continue, je fais évacuer la salle. Enfin, continuez.
Après le gueuleton, ben, je vais ronfler dans ma grange. Et là, je dois bien le dire, je cuvalaise le picrate que j'avais bu. Voilà qui part qu'au petit jour, je me cherche un mégot. Parce que moi, la cigarette du matin, c'est sacré. Je sais pas vous, mon président, mais moi, sans ma clope du matin, bah, je suis pas opérationnel.
Faites-nous grâce de vos goûts. Le tribunal n'a que faire de tels détails.
Mon président, je tombe sur le portefeuille. Au moment de le jeter, je l'ouvre par acquis de conscience. Et qu'est-ce que je vois pas? Eh ben, j'avais toujours mes 100 balles. J'ai cru aussi sec que je me payais un infarctus.
Infarctus?
Oh, bah, si vous voulez, au point où j'en étais, hein, c'était pas le vocabulaire qui me gênait. Je fonce aussitôt chez l'Auguste et j'y dis, je t'ai payé hier ou pas? La poire qui est dure de ses sous, mais honnête, il me fait, bah sûr, pourquoi, t'as des doutes?
Et alors?
Bah alors je me suis dit qu'il devait y avoir 2 billets de 100 balles dans le portefeuille et que fin je l'ai, j'en avais vu qu'un. L'Auguste, il m'offre un bar et là-dessus, je gamberge. L'avant-veille, j'avais vu une veste à la vitrine de chez Léon Tailleur. J'y vais et je l'achète. Aussitôt passé la porte, j'avais des regrets. Mes 100 balles converties en kilos de rouge, ben, j'aurais eu de quoi boire 100 jours, mon président. Les 100 jours de la bouteille. Du coup, ben, c'était moi l'empereur. De dépit, je veux balancer le portefeuille. C'est bête, hein, mais je l'ai ouvert de nouveau. Il y avait encore 100 francs. Ben, j'ai cru que c'était le marbre d'Auguste. J'ai fermé les yeux. Et quand je les ai rouverts, Bonaparte était toujours là.
Je vous conseille de trouver autre chose pour convaincre le tribunal.
Oh, bah, c'est la vérité, vraiment, président. Même que lorsque je suis allé chez Simca acheter ma guimbarde, hein, bah, j'ai payé en ouvrant et en refermant mon portefeuille. Chaque fois que je le ressortais de ma poche, il y avait un nouveau billet. Bah, questionnez le vendeur.
Oui, le tribunal se réserve le droit d'appeler les témoins à la barre lorsqu'il l'estimera opportun. Poursuivez.
Je suis sorti au volant de mon aronde. Là, c'est vrai. J'étais pas peu fier. Je vous jure que j'avais pas remu quand je suis tombé sur cet enfoiré de flic.
Maître, pour l'amour du ciel, veuillez dire à votre client de modérer ses expressions.
J'essaye, monsieur le président. Vous voyez bien que j'essaye, mais...
Faites entrer le témoin Machelard. Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé. Jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte. Levez la main droite et dites « Je le jure ».
Je le jure.
Vous êtes vendeur au service des voitures d'occasion au garage Saint-François?
Oui, monsieur le président.
L'accusé ici présent est-il bien l'homme qui est venu acheter le 11 avril une voiture type Aronde?
Tout à fait.
Veuillez préciser la façon dont s'est effectué le règlement de cet achat.
Il m'a donné un premier billet de 100 francs, puis a refermé son portefeuille, l'a mis dans sa poche, l'en a ressorti et j'ai vu en retirer un deuxième billet.
Enfin, c'est impensable.
Pourtant, monsieur le président, il a fait ça 30 fois.
Vous voyez bien, monsieur le président.
Et ça vous a paru normal, monsieur Machelard?
Je dois vous dire, monsieur le président, que venant de la bouteille, rien ne pouvait m'étonner.
Le tribunal vous remercie. Des questions aux témoins, maître?
Une question, monsieur le président. Monsieur Machelard, à quoi attribuez-vous cette espèce de miracle, à de la magie?
Ah non, maître, pas la magie. Quand il y a magie, il y a obligatoirement truc. Or ici, je ne vois pas à quel truc aurait pu utiliser la bouteille. D'où aurait-il sorti tous ces billets de 100 balles? En vérité, maître, vous avez utilisé le mot juste tout à l'heure. Un miracle! Comment voulez-vous qu'une trentaine de billets de 100 francs sortent d'un portefeuille sans intervention miraculeuse, ou peut-être même surnaturelle?
Très bien, monsieur Machelard. Merci. Vous pouvez disposer. Veuillez nous dire maintenant comment s'est produite l'altercation qui vous a opposé au brigadier en chaune.
Le feu rouge, je peux pas dire, je l'avais grillé. J'aurais rien dit si l'autre salope... faites excuse, mon président, mais je dis les choses telles qu'elles sont, hein. Si Anchauve m'avait pas traité comme un moins que rien, ben, y aurait pas eu de scandale. Je suis pas beau, j'en conviens. J'ai pas de travail fixe, mais je suis honnête homme. C'est pas ma faute si j'aime le soleil, l'odeur des champs après la pluie, et si les oiseaux viennent manger dans ma main, et si les animaux de la forêt me connaissent. Je pourrais même vous dire où gîtent les lièvres, mais je le ferai pas, parce qu'ils n'auraient plus confiance. Et puis c'est la faute à un type qui roulait en Cadillac. Il a pris le parti du brigadier. Bah, dame, tout lui était permis, mon président. Il se croyait riche parce qu'il avait de l'argent. Alors j'ai vu rouge. Et pourtant, à cette heure, hein, ben, j'avais pas encore fait le plein. Foi de la bouteille, hein, j'avais rien bu. Alors on a eu des mots. Et puis si je vous l'ai dit, ben, vous allez encore vous mettre en colère. Bref, il m'a dit, retire tes paroles. Ben, des clous que j'ai fait. On est un homme, on n'en est pas, hein. Alors il a sorti son carnet, vous connaissez la suite.
Le président entendit ensuite le brigadier Anchaune, puis délibéra avec ses assesseurs après que Maître Masson eut fait sa plaidoirie.
Plantevin, le tribunal, tenant compte de vos états de service, consent à se montrer indulgent et ne vous condamne qu'à une amende de 500 francs pour outrage à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.
Merci, mon président. Et comme je suis pas un chien, eh ben je suis content. Mais... Oh ben ça, sacré bon sang! Oh ben ça marche plus! Il est vide! Vide!
Bien entendu, si vous ne vous exécutez pas dans les délais légaux, il sera procédé à une contrainte par corps.
Oh ben monsieur, mon président, où je vais trouver la somme?
Vendez votre voiture.
Bah je peux pas, je l'ai donnée.
Donnée?
Bah oui, à l'Auguste, contre l'assurance de mon couvert et de mon pinard à volonté, matin et soir et pendant un an.
Vous en serez quitte pour faire 3 mois de prison.
Bah, en hiver, mon président, je dis pas. Hein. On est chauffé et puis nourri. Seulement maintenant, c'est les beaux jours. Et puis j'ai besoin de mes étoiles, de l'odeur des bois. Et puis j'ai rendez-vous.
Rendez-vous?
Bah oui, à Nice. L'été, je fais la côte. Avec Aglaé. Hein. C'est peut-être pas une Vénus, mais à mon âge et avec ma gueule, ben, on choisit pas.
Quelle est la profession de cette Aglaé?
Dame Pipi, au perroquet rose.
Je doute que vous n'arriviez pas à trouver cette somme, si j'en juge par le nombre d'amis que vous semblez avoir dans cette salle. L'audience est levée.
La bouteille m'avait ému. Françoise avait les larmes aux yeux. Je ne croyais pas à son histoire, mais personne dans la région n'ayant porté plainte pour vol, j'accordais à ce vieux clochard le bénéfice du doute. Sur la demande de ma fille, alors qu'il s'entretenait avec son avocat à l'issue de l'audience, je m'offris à régler son amende. Le bougre, en contrepartie, voulut absolument m'offrir son fameux portefeuille. Il insista tellement que pour ne pas le vexer, je l'ai pris, décidé à m'en débarrasser dans la première bouche d'égout. En fait, j'ai oublié de le faire et depuis ce jour, la chance m'a souri. Ce portefeuille est une sorte de talisman et tout vide qu'il soit, je le garde sur moi depuis bientôt 8 ans.
Pouvez-vous me le montrer?
Bien sûr. Tenez, le voilà.
En tout cas, il a vécu. Il est informe et tout est limé.
Ah oui, mais... Il y a un billet de 100 francs à l'intérieur.
Mais... C'est incompréhensible.
Et pourtant, regardez. Tenez, Frédéric, je le referme et je vous le passe. Essayez.
Incroyable. Encore un billet de 100 francs.
Nous avons sûrement chacun de nous une histoire à laquelle nous ne pourrons jamais donner d'explication. Il faut croire que durant un certain temps, nous existons dans une... une sorte de cinquième dimension. Je connais une anecdote qui, elle aussi, m'a amené certains soirs à me poser des questions.
Alors, monsieur Jensen, vous nous faites languir.
C'est vrai, Sven. Vous nous avez dit tout à l'heure avoir vécu, vous aussi, une aventure qui vous a amené certaines fois à vous poser des questions.
Mais oui, nous vous avons déjà raconté chacun la nôtre, à votre tour maintenant.
Sauf notre hôte, mais peut-être se réserve-t-il pour la fin.
Exact, monsieur Jensen. Mon tour viendra. Mais nous vous écoutons.
C'était la cinquième dimension. Une pièce radiophonique présentée par le Théâtre de l'Oreille, d'après un roman de Marcel G. Prêtre, adapté pour la radio par Pierre Bassoli. Aujourd'hui, deuxième partie, un étrange portefeuille. Avec, dans le rôle de Sven Jensen, Gilbert Rigotti, Frédéric Barre, Marco Poli, Armand de Camard, Philippe Lecher, François Verrière, Eric Ashton Lomax, Pierre Masson, Carlo Ruexeguer, le président, Claude Prélot, Nestor Plantevin dit La Bouteille, Yvan Muller, Machelard, Gaston Lozère. Mise en onde, prise de son et montage, Pierre Bassoli.